La radiodiffusion française vous invite à écouter.
Le Grand Tour ou le voyage d'éducation aristocratique en Europe.
Bon alors, pour un dossier d'Erasmus, il vous faut l'accord de votre directeur de recherche ici, il vous faut l'accord, la signature de votre directeur de recherche là-bas, il vous faut l'accord de l'université d'accueil, l'accord de cette université, votre carte de mutuelle étudiant, hein, oui bah faites pas... Donc vous me remplissez tous ces papiers-là, et puis les autres choses, bah, comme tous les dossiers, hein, il faut un CV, une lettre de motivation, l'intitulé de votre DEA, enfin toutes ces choses-là, et puis voilà. Tout ça.
En 30 ans d'échange Erasmus, ils sont peut-être 4 millions de jeunes à être passés par les guichets administratifs et à s'être vus ouvrir les portes des échanges scolaires ou universitaires européens. Le but affiché d'Erasmus est d'enrichir les études entreprises dans le cadre national. La finalité réelle est de familiariser ses bénéficiaires avec un continent dont on souhaite qu'il l'ait en partage. Quant à la méthode, c'est celle empirique de la vie en compagnie des autres. Elle ne s'apprend pas que dans les livres et les bibliothèques. Les promoteurs d'Erasmus, on le sait, insistent aussi sur les couples qui en sont issus. Curieusement, ils disent parfois que les enfants de ces couples naissent avec du sang bleu, bleu comme le drapeau européen. Le sang bleu, au temps des anciens régimes, c'était le sang des nobles. Or, bien avant Erasmus, l'aristocratie avait inventé pour ses rejetons le voyage d'éducation en Europe. Le but en était de transmettre par l'expérience personnelle et non plus par l'autorité. De même qu'il pouvait être utilisé pour traiter des chagrins d'amour, il offrait un programme érotique inavoué. Ses maîtres mots étaient curiosité, disponibilité, sociabilité. Il s'agissait, en découvrant les lieux les plus forts de l'Europe classique, en fréquentant les meilleurs et les plus intelligents, d'apprendre à tenir sa place dans un espace commun. Cela s'appela le Grand Tour. Et des générations d'aristocrates eurent le privilège d'en être pendant 2 siècles au moins, jusqu'au premier 19e siècle.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Avec Gilles Bertrand, bonjour.
Bonjour.
L'homme des voyages, vous avez publié à l'École française de Rome il y a une petite dizaine d'années un livre fort savant sur le Grand Tour. Vous y dites, comme vous le répétez d'ailleurs à chacune des tribunes qui vous sont offertes, attendez, cette expression, le Grand Tour, c'est un peu un mot valise, c'est un mot un peu problématique.
Oui, c'est un mot qui en plus pour nous Français n'est pas forcément aussi familier qu'il l'est pour les Anglais ou pour les Italiens, parce que c'est un mot qui a été forgé par la culture anglo-saxonne dans une certaine optique civilisatrice, c'est-à-dire qu'il s'agissait de faire un tour à travers l'Europe, pour apprendre finalement quelles étaient les limites à l'intérieur desquelles pouvaient se mouvoir les appartenants, les personnes qui étaient membres de cette société appelée à diriger l'Europe. Et de ce point de vue-là, on peut dire que dans le tour, il y a un principe de circularité. Et cette circularité fait qu'on revient au point de départ en ayant cueilli au passage un certain nombre d'informations, en ayant construit des relations.
Alors au point de départ, dans l'époque la plus ancienne du Grand Tour, avant que le mot même ne soit utilisé, quand la pratique commence, c'est l'Angleterre le point de départ ?
Non, ça n'est pas l'Angleterre le point de départ. Ce qu'on peut dire, c'est qu'en fait, toute l'Europe du Moyen-Âge était marquée par une circulation très très diverse de personnes dont les buts étaient opposés les uns aux autres, mais il y avait des élites, comme il y avait des personnes plus humbles, il y avait des artisans, il y avait des marchands, mais des clercs, mais disons qu'il y avait aussi ces étudiants fils de la noblesse qui pratiquaient ce qu'on a appelé longtemps la peregrinatio academica, hein, c'est-à-dire...
Qui va un peu dans tous les sens.
Voilà, qui va dans tous les sens et qui, tout de même, entre le XIIIe, quand apparaissent les grandes universités de Bologne, enfin, qui est un petit peu antérieure, de Paris ensuite, et puis ce nombre d'universités dans le sud de l'Europe, eh bien, cette floraison d'universités plutôt dans le sud de l'Europe amène les Européens du Nord à s'y précipiter. Si précipité est un bien grand mot, parce qu'en fait, il fallait quand même prévoir de nombreux mois, voire des années.
Parce que quand même, dans le Grand Tour, dans l'image qu'on a du Grand Tour, comme dans l'image qu'on a d'Erasmus, l'héliotropie, la fascination du Sud joue.
Tout à fait, mais c'est un fait dans la Peregrinatio Academica, qui est un petit peu l'ancêtre du Grand Tour. Pourquoi est-ce qu'on allait du Nord vers le Sud? Parce qu'il n'y avait pas d'université dans le Nord. Et on allait combler en quelque sorte un vide. Alors ce vide, il s'est aussi manifesté par d'autres aspects que la présence ou non de collèges ou d'universités. Il s'est manifesté par un climat différent. Il s'est manifesté par le fait qu'il y ait des œuvres d'art, qu'il y ait des occasions d'aller dans des bibliothèques, dans des cabinets, dans des musées, qui n'étaient musées avant la lettre, les cabinets devenus musées au cours du XVIIIe siècle. Et donc effectivement, se cumulait un désir d'apprendre dans des lieux du savoir et un désir d'apprendre dans des lieux qui se trouvaient caractérisés, finalement, une Europe ayant un legs à transmettre et qui pouvait être aussi un legs plus mobile, tel que les théâtres ou toutes sortes d'activités mondaines.
Et puis, les pratiquants du Grand Tour pouvaient être plus vieux et ne plus être étudiants, ou du moins comme Montaigne, étudiant perpétuel.
Le voyage me semble un exercice profitable. L'âme y a une continuelle exercitation à remarquer les choses inconnues et nouvelles. Et je ne sache point meilleure école, comme j'ai dit souvent, à façonner la vie que de lui proposer incessamment la diversité de tant d'autres vies, fantaisies et usances, et lui faire goûter une si perpétuelle variété de formes de notre nature. Le corps n'y est ni oisif ni travaillé, et cette modérée agitation le met en haleine. Je me tiens à cheval sans démonter, tout coliqueux que je suis, et sans m'y ennuyer, 8 et 10 heures. La seule variété me paie, et la possession de la diversité, au moins si quelque chose me paie. À voyager, cela même me nourrit, que je me puis arrêter sans intérêt.
Dès la fin du XVIe siècle, Montaigne s'en va en Italie, chercher les lieux forts et les interlocuteurs qui vont piquer sa curiosité. C'est le Grand Tour avant que ce ne soit le Grand Tour. Et c'est seulement au XVIIIe siècle, dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, que son voyage en Italie est édité.
Eh oui, effectivement, c'est en 1774, par Meunier de Kerlon, donc près de 2 siècles après qu'il l'ait effectué.
Alors là, le modèle du Grand Tour est formalisé.
Voilà, le modèle est totalement formalisé. En gros, il est pratiqué depuis le 1er XVIe siècle, en gros, depuis le 1530, 1540. Mais il ne prend son nom qu'à partir du moment où les Anglais, au milieu du XVIIe siècle, finalement formalisent ce qui était le fruit de la révolution éducative anglaise, voyager par l'expérience, en introduisant ce mot de tour. Faire le tour, mais pas de l'Europe, faire le tour de France, ou bien faire le tour d'Italie, le Giro of Italy. Et ce tour, en fait, est un tour qui s'additionne, qui se juxtapose avec d'autres tours. On fait le tour d'Allemagne, on fait le tour de Hollande. Et c'est un Anglais qui s'appelle Lascelles qui a lancé le mot tour dans les années 1670, mais c'est un autre Anglais qui est le premier, seulement au milieu du 18e, à employer l'expression grand tour. Mmh. Et en fait, c'est une expression qui nous pose un petit peu problème aujourd'hui dans notre culture française, parce qu'elle nous vient d'ailleurs. Et en même temps, elle se combine avec l'expression de tourisme qui en est peut-être dérivée sans
Alors
se confondre avec elle.
Le tourisme, ça viendra plus tard, mais restons au 18e siècle. Formalisation, création d'un genre littéraire. Alors vous êtes d'une espèce qui aime conter, vous, Gilles Bertrand. Alors vous avez fait le conte de toutes les sources littéraires en français, par exemple, sur le voyage en Italie entre 1750 et 1815. J'ai bien noté plus de 200 sources.
Voilà, et alors ce sont des sources, en l'occurrence, écrites, parce que je crois que ce qui est au cœur du principe du Grand Tour, c'est qu'il faut, certes, voyager, mais il faut, par-delà cette expérience du déplacement physique, il faut écrire. Il faut inscrire. Et cette inscription, elle est pratiquée de manière institutionnelle. C'est peut-être ce qui fait aussi, dans le Grand Tour, la caractéristique d'institution. C'est-à-dire qu'il y a recommandation et quasiment obligation pour celui qui voyage, chaque jour, pendant qu'il voyage, de prendre des notes. Le soir, de les revoir. Au retour, d'en faire un cahier, un journal, qui pourrait être transmis peut-être à quelques rares personnes ou qui, comme le firent plus tard des voyageurs célèbres, je pense à Debrosse au 18e, qu'on entendra tout à l'heure, à l'usage d'un plus grand public. Mais dans tous les cas, le principe, c'est que sans pouvoir prouver par l'écriture qui a eu le voyage, eh bien, l'éducation est incomplète.
Alors vous êtes aussi un homme à compter, à Genève, à Chambéry, à Grenoble. Ça fait partie de vos grands projets d'enquête. Le nombre de personnes qui passent l'arc alpin pour aller en Italie. Et comme vous avez des loisirs à Venise, où vous passez 2 mois à enseigner, vous comptez, prenons le cas de Venise, voilà, le nombre d'hôtes de la bonne société qui sont recensés par les hôteliers qui vont donner leurs notes aux grands inquisiteurs.
Voilà, aux inquisiteurs d'État. Alors en fait, il n'y a pas que les nobles, mais ils sont, notamment au XVIIIe siècle, qui est la période sur laquelle je travaille plus particulièrement, ils sont toujours très nombreux. Et effectivement, je trouve qu'il est intéressant quand on essaie de comprendre ce qu'ont été nos ancêtres dans leurs pratiques voyageuses. Il est intéressant, d'un côté, de voir ce qu'ils ont écrit, de goûter la manière dont ils ont rendu compte, comme Montaigne, de ce qu'a été pour eux ce déplacement, cette découverte d'une altérité plus ou moins factice, plus ou moins vécue. Et puis, d'un autre côté, il me semble qu'il est intéressant de savoir combien il y a eu de personnes, qui elles ont été, de faire ce que les historiens ont eu l'habitude de faire compter.
Voilà. Le président de Brosse a une trentaine d'années, c'est un étudiant perpétuel, quand en 1739-1740, il arrive à Venise et ses lettres familières d'Italie sont extrêmement connues.
Il n'y a pas dans le monde une voiture comparable aux gondoles pour la commodité et l'agrément. Et il ne faut pas songer à deviner qui peut être dedans. On est là, comme dans sa chambre, à lire, à écrire, à converser, à caresser sa maîtresse. Et deux hommes d'une fidélité à toute épreuve vous conduisent, sans vous voir, là où vous voulez.
Une émission de Jean-Marie Drault qui plus tard sera l'hôte à la Villa Médicis de ceux qui font le grand tour au temps contemporain. Venise a quelque chose d'un peu particulier, je comprends que vous y alliez souvent, parce que c'est la ville qui, dans le grand tour, offre le plus d'occasions de rapprochements intimes. Ça fait partie du grand tour, ça.
Ça fait partie du grand tour, il y a même eu un ouvrage américain sur le grand tour et le sexe. Et effectivement, ça se rattache à l'idée d'une liberté qui pouvait être crainte par les familles. Il y a toute une tradition de l'opposition au voyage. Il y a des Anglais, il y a des Suisses, comme Béat de Muralt, au début du 18e siècle, qui ont écrit contre l'utilité des voyages pour s'opposer précisément à cette grande règle du grand tour. Et à la fin du 18e siècle, les Anglais eux-mêmes ont manifesté, même chez les Whigs, les classes dominantes, une certaine méfiance à l'égard de ces risques.
Si on envoyait les jeunes faire le grand tour, c'est parce qu'ils risquaient de troubler la transmission traditionnelle de l'héritage en ayant des histoires d'amour dangereuses dans leur pays d'origine aussi.
Il y avait aussi cette idée-là, mais malgré tout, on essayait quand même de les envoyer en les gardant sous protection.
Parce qu'il y avait des introducteurs, des tuteurs.
Exactement, voilà. Et la figure du précepteur, du mentor est essentielle dans le cadre du Grand Tour. Souvent, du reste, les expériences du Grand Tour sont écrites par l'accompagnateur plus que par le jeune homme lui-même.
Alors, les grands lieux, ce sont ceux qui comptent. Puisqu'on est en Italie, il faudrait parler de Naples, il faudrait parler de Florence, mais Rome, dont Chateaubriand dira que la ville se lève de son tombeau pour l'accueillir.
Oui, parce que Rome, c'est une grande aventure. C'est-à-dire que Rome, c'est tout de même la ville qui résiste à tous les âges de l'histoire du voyage en Europe. C'est-à-dire que Rome, ça a été la ville du pèlerinage, celle vers laquelle toute l'Europe se portait, en alternative à Jérusalem ou à Saint-Jacques-de-Compostelle. Mais Rome, c'est aussi la ville de la science, des savoirs anciens, de l'Antiquité, des livres transmis, des livres d'autres continents qui viennent à Rome. Et puis Rome, c'est aussi la ville de paysages surprenants, la campagne dans la ville. Et donc c'est une ville qui, même quand elle paraît en décadence, elle attire toujours les voyageurs, elle attire les peintres, les artistes, les gens de science. Et c'est pour ça que, même quand il n'y a plus de grand tour, Rome est toujours là.
Milan s'imposera peut-être plus tard. On va glisser insensiblement vers le 19e siècle. Le grand tour romantique n'est plus le même que le grand tour classique. Et puis le mot touriste va s'imposer, les mémoires d'un touriste de Stendhal. Justement, Stendhal à Milan.
Milan, j'arrive à 7 heures du soir, harassé de fatigue. Je cours à la Scala. Le théâtre de la Scala est le salon de la ville. Il n'y a de société que là. Nous nous verrons à la Scala, se dit-on, pour tous les genres d'affaires. Cet aspect est enivrant. Je suis tout transporté en écrivant ceci. Ma foi, mon admiration ne tombe pas. J'appelle La Scala le premier théâtre du monde, parce que c'est celui qui fait voir le plus de plaisir par la musique. Impossible même d'imaginer rien de plus grand, de plus magnifique, de plus imposant, de plus neuf. Me voilà condamné à un dégoût éternel pour nos théâtres, et c'est le véritable inconvénient d'un voyage en Italie.
Insomma delle somme, per attendere al vostro bene, io m'agno da ricevere.
Poveretta, la senti?
Per aver di voi cura, io sventurata, debbo essere maltrattata.
Ma questo non va bene.
Parlate sì.
Ma questo non conviene.
E por qualche rimorso aver dovreste di farmi e dirmi ciò che dite e fate.
Così è, da dottoressa voi parlate.
Voi mi state sui scherzi, vedi, io m'arrabbio.
Non m'arrabbiate, Capperi ha ragione. Tu non sai che ti dir, va dentro, prendimi il cappello, la spada ed il bastone, che voglio uscir.
Mirate, non ne fate una buona, e poi serpina e di poco giudizio.
Ma lei che diamine vuol mal dai fatti miei?
Non vo' lasciate adesso, gli è mezzodì, dove volete andare, andatevi a spogliare.
Ehi, gran malanno, che mi faresti?
Poi non va corr'altro, io vo' così. Non uscirete, io l'uscio la chiave chiuderò.
Ma parmi questa massima impertinenza.
E si sonate.
Serpina il sai, che rotta mai la testa.
La marche de l'histoire. France Inter, Jean Lebrun.
Il y a un extrait de La Servante, maîtresse de Pergolèse, avec l'orchestre de la Scala de Milan, bien sûr, dirigé par Carlo Maria Giulini. Et puis un texte de Stendhal, lu par Guillaume Gallienne un peu avant. Alors nous parlons avec Gilles Bertrand du Grand Tour, cette tradition aristocratique qui a précédé de loin Erasmus, du voyage d'éducation, voire d'initiation des jeunes en Europe. Je ne sais pas si Stendhal, c'est encore vraiment le Grand Tour. Il s'est passé tellement de choses qu'il raconte dans le détail. L'émigration, et puis... les campagnes d'Italie, les officiers de Bonaparte tels qu'ils se présentent dans les salons italiens décrits par Stendhal sont plus vraiment les aristocrates d'avant 1789.
Alors effectivement, lorsqu'arrive la génération de Stendhal, le XVIIIe siècle est encore dans les têtes, mais les circonstances de la transformation par les guerres, de la géographie européenne, ont fait qu'il y a eu des difficultés à voyager comme on avait voyagé auparavant, que les aristocrates ont souvent été des émigrés, et le rapport avec les territoires, avec les patries, s'est complètement transformé. Et on peut dire que par le fait que d'une Europe cosmopolite, qui était le cadre idéal du Grand Tour, on soit passé à une Europe des nations qui s'est peu à peu creusée, et une nouvelle motivation a lancé les voyageurs vers l'idée que finalement, voyager, ça servait à trouver des refuges, à aller dans un endroit où on pouvait être mieux que dans l'endroit de départ, ce qui n'est plus tout à fait l'optique du Grand Tour. On était chez soi partout, et à travers l'Europe. Et c'est un petit peu de cette manière-là que Stendhal s'inscrit dans son goût même pour la musique en Italie, qui n'est pas le premier à l'éprouver, mais il en est un des grands chantres, si je puis dire. Parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que le voyage n'est plus seulement pour apprendre. Et à la limite, Stendhal, il s'en fiche un peu d'apprendre. Le voyage, il est pour jouir avant tout. Alors, il faut jouir peut-être des femmes, peut-être des idées de plaisir, plus que du plaisir lui-même. Il faut jouir des paysages, de ces paysages qui sont en train de se transformer complètement dans la perception qu'on en a. C'est-à-dire que ce ne sont plus des pays dont il faut connaître de façon statistique toutes les réalités. Mais les voyageurs circulent à travers l'Europe, et en particulier en Italie, mais aussi ailleurs, à la recherche d'impressions, à la recherche d'émotions qui vont leur faire se divertir en cultivant cette conscience du divertissement, ce qui produira aussi d'autres formes d'écriture et de compte-rendu de ce qu'ils auront éprouvé.
Et on peut aller ailleurs que dans les hauts lieux classiques.
On peut aller vers ce qu'on a souvent appelé les petites patries. On peut inventer des lieux. Si on prend l'exemple de l'Italie, la Sicile, des zones de l'Italie continentale du Sud, des îles, l'île d'Elbe par exemple, ou bien les îles au large du golfe de Naples deviennent des lieux par excellence de plaisir nouveau.
Je me suis laissé dire que votre fils, entreprenant votre éducation, vous donne à lire les vers de Lamartine.
Eh oui, ça, mais... il n'a que 23 ans, mais...
mais vous aviez lu avant lui Graziella, ça c'était par devoir d'État, parce que il faut étudier le voyage en Italie, et le livre peut-être le plus connu de Lamartine raconte justement un séjour en 1811-1812 du jeune poète dans une île pittoresque sur la côte napolitaine, où il vit très simplement, non pas avec les meilleurs et les plus intelligents, non, avec de simples pêcheurs. Et de cette famille de simples pêcheurs est issue une Ève naïve, si belle et si belle, Graziella.
Mais ne restez pas debout, entrez. Dites-nous ce que vous avez. Graziella nous a beaucoup inquiété hier soir sur votre compte.
Je ne sais pas ce que j'ai eu. Le médecin non plus, d'ailleurs.
Asseyez-vous.
Je me suis senti seul, triste, malade en dedans. Il me manquait quelque chose. Au fond, j'ai été heureux, très heureux à Procida. Et depuis que Graziella est entrée chez moi hier soir, je suis guéri.
Vous voilà bien, un peu pâle, mais vous avez l'air bien, n'est-ce pas?
N'en parlons plus. Mais ici, à la mer, comment vont les choses?
Eh bien, je vais vous dire, jeune homme, que vous nous avez porté chance.
Pour ça, oui. La barque est bénie.
Une bonne barque, oui. Maniable, résistante et douce à la voix.
Un téléfilm d'Edmond Tiborowski avec dans le rôle de la Martine, solitaire mais attirée par la solaire Graziella, Patrick Champagnat. Gilles Bertrand.
Eh oui, la Martine, tout comme Montaigne, tout comme De Brosse, c'est un noble. Il serait apparemment digne fils du Grand Tour, mais il ne voyage pas en compagnie, il ne va pas voir ses semblables, il contacte les pêcheurs, il est avec le peuple, cultivant une forme de pittoresque finalement, cultivant cette idée qu'il faut transformer cette relation qu'on a pour se former, pour se construire, qu'on a avec les autres, avec le monde, et le transforme dans une sorte de solitude qui est celle peut-être déjà du poète qu'il va devenir, en 1811-1812, mais je crois qu'il est quand même le signe de ce que le voyage est entré dans une autre ère. Alors paradoxalement, c'est celle d'un voyage vécu individuellement, d'un voyage du moi, de l'ego, mais en même temps, c'est aussi l'horizon du tourisme, finalement.
Alors tourisme, le mot apparaît, justement, il commence à s'imposer, si on regarde le dictionnaire d'Alain Rey, 1811-1812.
Exactement, l'année même du voyage de Lamartine. Et en fait, derrière ce mot tourisme, il y a surtout l'idée de fuir une civilisation urbaine, industrielle. Le mot est apparu d'abord en anglais dans les années 1790 pour désigner des zones de campagne en Écosse à l'abri des fumées d'usines. Donc on est dans l'idée d'aller conquérir des espaces ou exotiques ou en tous les cas qui soient étranger à ce monde brutal contre lequel tout le 19e siècle des poètes, des écrivains jusqu'à Baudelaire s'élèvera. Et donc je crois qu'effectivement cette idée du tourisme porte avec elle à la fois cette forme de révolte individuelle contre l'évolution du monde et en même temps cette idée qu'il y a une industrie possible. Et c'est ce qui fera, autour du milieu du 19e siècle, que le tourisme naîtra, enfin qu'il est né, du fait que ce soit précisément des hordes, entre guillemets, comme on le disait à l'époque, qui ensemble suivaient des itinéraires beaucoup plus brefs que ceux du Grand Tour et qui déterminaient d'autres manières de vivre le voyage.
Le nombre déjà important des sources littéraires du Grand Tour du XVIIIe siècle est pulvérisé par le nombre de guides qui paraissent, qui arme le touriste.
Effectivement, il y avait certes des guides ou des récits guides avant que le tourisme ne s'impose, mais il suffit de citer au 19e siècle les noms des grands éditeurs ou des collection Murray, Baedeker, guide Johan, futur guide Hachette, pour réaliser qu'on est là dans une phase proprement d'industrialisation du voyage, et qui n'a plus rien à voir avec le caractère select, le caractère de distinction que pouvait avoir le voyage dans les siècles antérieurs.
Et puis il faut rentrer. C'est seulement au milieu du 19e siècle, en fait, que Lamartine publie Graziella, et il évoque son souvenir de jeune homme convoqué par Madame de Lamartine, mère, invité à revenir en Bourgogne.
Tu n'y résisteras pas, les chevaux sont commandés pour ce soir à minuit. Il est 11 heures. Partons. Ou tu ne partiras jamais.
Mon fils chéri, je n'ai rien reçu de toi. Que se passe-t-il, mon Dieu? J'ai été souffrante cet hiver et je me remets difficilement. Ni ton absence, ni ton silence n'aideront à ma guérison. Je te demande instamment de revenir le plus vite possible.
Attends-moi. Graziella, mon cœur bat. Je ne te reverrai pas. En partant ainsi, j'épargne à tous la douleur d'une séparation pleine de larmes. Dis-toi que je pars avec l'intention de revenir vous surprendre un jour pour vivre encore des mois de bonheur. Je te serre dans mes bras. Voici mon adresse. Monsieur Alphonse de Lamartine à Milly.
En Bourgogne, revenir, Gilles Bertrand.
Revenir, ça n'est pas rien. C'est peut-être ce qui est à la fois le plus difficile et stratégiquement le plus important, puisque revenir, c'est aussi faire que le voyage a été utile. C'est valoriser ce qu'il permet de montrer de soi dans le monde d'où on est parti. Mais c'est aussi risquer de déranger ses semblables. C'est bien pour ça que la lettre, comme celle de la maman de Lamartine à son fils, a traduit depuis au moins le XVIIe siècle une sorte de frein au risque du voyage. Parce que par la lettre, il y avait un lien qui maintenait aussi bien le voyageur en relation avec sa famille qu'en relation avec son monde social. Elle était en quelque sorte le filet. Et de ce point de vue-là, on n'a pas à s'étonner si la lettre a été aussi un genre littéraire extrêmement prisé pour écrire le voyage, que ce soit au XVIIe, au XVIIIe siècle, alors que au XIXe siècle, eh bien à la lettre, dès lors que le voyage a conquis ses lettres de noblesse en quelque sorte, succède le récit de voyage romantique, qui est un genre à tous les effets, qui a eu sa postérité jusqu'à nos jours, enfin à travers tous ces écrivains voyageurs du 19e et du 20e siècle.
Les lettres permettaient aux familles des rejetons de l'aristocratie du Grand Tour de leur tenir les rênes courtes. Alors qu'est-ce qui se passe pour les parents d'Erasmus et leurs enfants? Je pense que c'est les enfants d'Erasmus qui ont plutôt l'initiative des tweets aujourd'hui. Merci à vous, Gilles Bertrand. Cette émission a été préparée par Franck Olivard, Ilinka Negulesco et Léa Jussot. Faut que je cite son nom parce que sa mère aime beaucoup qu'on entende son nom à l'antenne. Et puis, la technique, c'était Théo Gomard et la réalisation, Valérie Aestaraï.